Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Sport. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du sport et notamment de découvrir les secrets d'entraînement des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau? Si vous ne me connaissez pas, je suis Rudy Koya, fondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai fondé en septembre 2009. Sur ce site, j'ai écrit des milliers d'articles, fait des milliers de vidéos et je fais des podcasts depuis plus de 10 ans. Avec toujours la même ligne de conduite, trouver des réponses à mes questions. Sur ce site, vous retrouverez une partie de ce que je propose, que ce soit en termes de compléments alimentaires, destinés à améliorer votre santé, notamment bio, mais aussi une application, FB Training, des livres, des formations, ainsi que du coaching à distance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Simon Paillard, préparateur physique, notamment de la surfeuse Joanne Defay. Suite au visionnage de ses vidéos sur sa chaîne YouTube, j'ai été très surpris de l'entraînement de cette dernière, d'où cet épisode. Quelle est donc la vision de la préparation physique de Simon? Bonne écoute. Salut Simon, comment vas-tu aujourd'hui?
Salut Rudy, ça va super et toi?
Bah ça va bien, je rentre de l'Elite Training Symposium à Nevers, je sais pas si tu suis un peu ce qui se passe en métropole, mais c'était un événement un peu pour les coachs et futurs coachs, où on intervenait avec des collègues sur différentes thématiques. Donc, je pense que si tu avais été là, ça t'aurait plu. Tu serais intervenu, je pense. Tu serais plutôt intervenu.
Mais malheureusement, je suis loin de tout ça. Je suis à La Réunion et je suis en voyage 9 mois par an. Donc, je suis pas souvent en métropole et encore moins sur Paris. Donc,
Est-ce que tu es originaire de La Réunion?
Non, pas du tout. Je suis originaire d'Annecy.
Oh, c'est vrai? Tu étais où à Annecy? Tu étais à Annecy même?
Ouais, Annecy même. Ouais. Je suis au Savoyard, moi, et je suis à La Réunion depuis 15 ans.
Oh, énorme. Qu'est-ce qui t'a amené il y a 15 ans à La Réunion alors?
Je suis venu là un peu par hasard. J'avais juste envie de voyager un peu, de voir autre chose. Et puis j'avais en tête de faire la diagonale des fous. Donc je suis venu à La Réunion quelques mois. Et puis j'ai trouvé un petit boulot qui est devenu un boulot à temps plein. Et puis voilà, j'ai fait ma place ici. J'étais bien. Et puis tous les ans, au moment de se poser la question de est-ce que je rentrais à Annecy ou pas. Et puis finalement, voilà, au bout de 15 ans, je suis encore là.
Ah bah c'est énorme parce que moi j'habite à côté d'Annecy maintenant, on aurait pu se croiser presque. Je suis arrivé il y a 12 ans, donc putain on n'était pas là.
D'accord.
Ah, ouais. C'est énorme. Et qu'est-ce que tu faisais comme boulot quand tu étais sur Annecy?
Eh ben en fait, j'ai eu un parcours assez classique, on va dire, comme les gars maintenant qui font de la préparation physique. Je suis passé par STAPS. Et du coup, j'ai fait mes études entre Chambéry et Grenoble. Et puis après, il a fallu que je bosse un peu. Je me destinais au départ à être professeur d'éducation physique. Et puis, après avoir passé le CAPES, je me suis rendu compte que finalement, c'était pas trop pour moi. Le fait de devoir bouger d'Annecy, de me retrouver en banlieue ou dans des régions avec lesquelles j'avais pas beaucoup d'affinité, parce que moi, à l'origine, je suis un montagnard, je suis un skieur. Donc, je me voyais mal partir quelques années, enseigner loin de ma région. Et ouais, j'ai préféré du coup arrêter ça. Et du coup, j'ai commencé à travailler un peu pour un groupe de commerce d'articles de sport. Et puis j'ai bossé quelques années pour eux en parallèle de mes études et du coup après mes études. Et puis du jour au lendemain, je suis parti à La Réunion pour voir autre chose et changer complètement de boulot, de décor, de tout quoi.
C'est original parce que tu dis que t'étais plutôt skieur à la base. Après, je comprends que t'es devenu un peu trailer parce que tu voulais faire la diagonale des fous, peut-être que t'as fait, on va en reparler. Et donc t'arrives à La Réunion et le ski c'est terminé quoi.
Ouais, le ski c'est terminé. Après, moi j'ai passé toute mon enfance sur des skis, hein, depuis que j'ai 2 ans et jusqu'à mes 30 ans, j'ai fait du ski. J'ai fait énormément de ski, de snowboard. C'était mon sport. Après, voilà, c'est un sport qui est, si on a de la chance, 6 mois dans l'année. Donc les 6 autres mois, il faut faire autre chose. Et puis du coup, moi, mon autre passion, c'est la course à pied depuis que je suis gamin. J'ai toujours aimé ça. J'ai été longtemps au club d'Aix-les-Bains, qui est un super club formateur en jeunes. J'ai fait les crosses, j'ai fait du demi-fond avant de me spécialiser sur plus du 400 mètres. Voilà, ça m'a permis de faire toutes mes études avec un statut de sportif de haut niveau. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait STAPS avec quelques facilités pour l'emploi du temps, pour le choix des options. Enfin voilà, on est tous passés par là, on sait un peu de ce que c'est. Quand on est sportif de haut niveau en France, on a quelques facilités. Donc voilà, c'était la course à pied, c'était mon truc jusqu'au jour où je me suis blessé un peu sérieusement au genou, ça m'a tenu un peu loin des pistes d'athlé pendant au moins 2 ans, on va dire. Et du coup, j'ai commencé à faire beaucoup de vélo à cette période. Et puis j'ai commencé vraiment à bien aimer le vélo. Et du coup, je suis parti sur du triathlon un peu par hasard comme ça. Et voilà. Mais le triathlon est devenu une passion et j'ai découvert ce que c'était vraiment l'entraînement, ce que c'était que de s'entraîner 2 à 3 fois par jour, voilà, des trucs comme ça. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là, je pense que j'ai vraiment accroché avec la préparation physique où j'ai commencé à me poser pas mal de questions et à faire pas mal de recherches aussi.
Je reviens rapidement sur ta blessure en athlète. Qu'est-ce que tu t'es fait exactement pour t'éloigner 2 ans des pistes?
Alors, j'ai eu une fissure du ménisque. Et on m'en a enlevé une bonne partie en me disant que bah, c'était pas grand-chose, que j'allais vite revenir et tout. Donc je pense que j'ai pris les choses un peu à la légère. Je me revois encore le lendemain de l'opération à virer les béquilles et à me dire bah, c'est bon, j'ai pas de douleur, j'ai moins de douleur, ça va le faire et tout. Et puis en fait, bah, j'ai traîné ça ouais, pendant 2 ans. Dès que je voulais recommencer à courir, bah, j'avais à nouveau des douleurs. J'avais des gènes. Enfin, c'était pas insupportable. Hein. J'étais pas non plus, je boitais pas et tout. Mais dès que je mettais les pointes et que j'allais sur la piste, eh ben, j'étais pas à l'aise, quoi. Et surtout quand on fait du 400 et du 400 R, on a besoin d'avoir des genoux quand même assez solides, quoi. Et du coup, ben, j'ai perdu un peu quelques repères sur la piste avec ça. Et j'étais pas à l'aise. J'étais plus à l'aise avec la course à pied et plus à l'aise avec le sprint.
Est-ce que tu pensais, avant cette blessure, pouvoir atteindre le très haut niveau, être en équipe de France et compagnie?
Pas du tout. Non, on va être honnête. Hein. Non, non. J'étais bon en junior. J'ai eu de la chance de faire quelques coupes d'Europe, quelques trucs comme ça. Mais voilà. Après, moi, c'était plus pour le fun. C'était pour être avec les copains. C'était parce que pendant que tu es étudiant, ben, c'est cool aussi d'avoir ça à côté. Mais non, je me suis jamais vu faire carrière vraiment là-dedans, quoi.
Donc tu découvres le triathlon. Pardon, que j'ai interviewé, on dit que quand tu démarres tard la natation, c'est un peu compliqué, on est un peu un caillou. Est-ce que toi, justement, avec cette sensation de glisse que tu avais au ski et au snow, ça s'est répercuté positivement en natation ou tu es toujours un caillou?
Ah, pas du tout, non, j'étais une vraie enclume. Vraiment, ouais, compliqué. Mon premier triathlon, je m'en rappelle, je l'ai fini à la brasse, limite à me noyer, enfin, c'était hyper, hyper désagréable. Par contre, j'avais quelques qualités à vélo et à pied et ça m'a permis de quand même réussir à faire une course, on va dire, correcte. Et puis, ben, j'ai essayé après de me remettre à nager. Après, j'ai de la chance, étant gamin, j'ai toujours nagé un peu. Mon père est un ancien nageur, donc, j'ai passé pas mal de temps quand même à la piscine le dimanche en famille. Et je pense que voilà, j'avais quand même quelques, on va dire, je pouvais me permettre d'avoir quelques sensations en natation quand même, de retrouver quelques sensations si je m'entraînais un peu. Du coup, j'ai commencé à m'entraîner vraiment beaucoup en natation, à nager quasiment tous les jours pour essayer justement de pouvoir ne pas sortir dans les derniers sur un triathlon, quoi.
Et là, par rapport au triathlon, parce que donc ski, snow, course à pied, donc 400 mètres, tout ça. Après, tu parles de diagonale des fous. Est-ce que aujourd'hui, dans ta pratique du triathlon, si tu en fais toujours, parce que on a pas beaucoup d'informations sur toi, c'est aussi le but du podcast. Est-ce que tu t'es contenté des courtes distances ou t'as aussi fait du long?
Non, alors j'ai fait aussi du long. À La Réunion, j'en ai fait un peu. D'ailleurs, je crois que j'ai eu un titre sur le championnat de longue distance une année, si mes souvenirs sont bons. Bref, c'est pas important. Mais ouais, j'ai découvert l'ultra-endurance vraiment après en arrivant à La Réunion avec la Diagonale des Fous. Et c'est vrai que je me suis aperçu que même sur le triathlon, ben, sur les épreuves plus longues, j'étais encore mieux, quoi. Mais j'ai toujours aimé les distances assez courtes, donc soit la distance olympique, soit le sprint. Parce que pour moi, ça a toujours été un super entraînement. Je suis pas un énorme bosseur à l'entraînement. Il y a des gars, je vois, qui ont une énorme rigueur et qui sont capables de se mettre des charges énormes, de tout planifier, d'arriver le jour de la course, ils sont au top et tout. Non, moi, je m'entraîne tous les jours, même s'il y a des courses. Donc, j'aimais bien m'entraîner toute la semaine, arriver le dimanche, faire mon sprint ou mon courte distance. Et puis voilà, le matin, ça s'était fait. Et puis l'après-midi, bah, je retournais rouler, quoi. Et en fait, c'est vraiment ça que j'adorais du triathlon, c'est de me dire que je m'entraînais tout le temps et les courses me servaient d'entraînement aussi. Voilà.
C'est grand comment la Réunion pour faire du vélo? Je me rends pas trop compte.
Bah alors, je peux te le dire, le Tour de Lille, il fait 213 km.
Ah, ça va quand même.
Donc voilà.
Mais moi, tu fais toujours le même tour, quoi. C'est ça?
On fait toujours le même tour, ouais. Après, il y a quand même pas mal de routes. C'est pas non plus, pour comparer, c'est pas Tahiti où il y a qu'une seule route. À La Réunion, il y a quand même les hauts. Donc, il y a pas mal de montagnes, il y a des belles ascensions. Il y a le Maïdo qui fait quand même 2400 mètres de dénivelé non-stop. Voilà, il y a plusieurs routes de montagne. On a le volcan, on a le cirque de Cilaos, le cirque de Salazie. C'est hyper varié. Il y a quasiment pas de plat à La Réunion parce que même quand on fait un tour de l'île, on a presque 2000 mètres de dénivelé positif sur le tour. Donc voilà, le terrain est plutôt sympa. Après, c'est vrai que bah, ça fait 15 ans que j'y suis. J'ai poncé toutes les routes de l'île. Hein.
Et donc, il y a des triathlons qui sont organisés à l'île de la Réunion.
Ouais, il y a plusieurs triathlons. Alors moi, ça fait quelques années que j'ai arrêté. J'en fais un de temps en temps pour le fun et tout. Parce que bah, j'ai fait toutes les mêmes courses. Je les ai faites plusieurs fois. Et c'est vrai que maintenant, j'ai moins de plaisir à les refaire. Et puis, j'ai moins de temps aussi. Parce que comme je te disais, je suis toujours en déplacement. Et que bah, voilà, c'est difficile de programmer aussi une saison quand on n'est jamais chez soi, quoi.
Alors, mais j'en viens un peu à cette partie préparation physique. Comment tu deviens préparateur physique? Parce que là, si je regarde tes réseaux que tu n'animes pas trop, il y a marqué que voilà, tu es préparateur physique. On voit que tu fais du triathlon. Comment tu en arrives à devenir préparateur physique? Et de ce que j'ai pu voir, en plus, tu as fait tout ce qui est les brevets fédéraux, musculation fonctionnelle. Si j'ai pas connu, tu as fait peut-être coach haltéro aussi.
Ouais.
Donc, tu as fait tous les trucs un peu bah, que mon pote Aurélien Broussal avait mis en place il y a un moment. Donc, comment t'en
Ouais.
arrives à te passionner un peu pour la préparation physique?
Ben déjà, je te dis, moi, quand j'étais étudiant, c'est vraiment ce qui me plaisait le plus, ce côté entraînement et tout. Et c'est vrai que, bah, après, de par mon activité professionnelle, j'avais relâché un peu le truc, quoi. J'étais plus trop là-dedans. J'avais du mal à apercevoir les opportunités, on va dire, pour bosser dans la préparation physique et gagner ma vie avec. Donc voilà, j'ai lâché ça un peu et puis en arrivant à La Réunion, je me suis remis un peu dedans. J'ai fait quelques formations, notamment aussi avec Transfert. Je ne sais pas si tu
Oui,
connais.
oui, je vois bien, très bien. T'as fait leur diplôme de préparation physique, c'est ça?
Ouais, parce que je suivais pas mal les travaux de Yann Lemeur à l'époque et j'ai vu qu'il était intervenant sur ce diplôme de prépa physique et du coup bah je l'avais contacté pour suivre un peu la formation et j'avais adoré et du coup derrière bah ouais j'ai enchaîné plein d'autres formations notamment avec Aurélien Brossal, tu vois, le coach haltéro, muscu fonctionnel, ce genre de trucs. Voilà, depuis ça fait ouais 10-15 ans que je me forme régulièrement, on va dire une fois par an, je me fais une formation et j'essaye de mettre à jour un peu mes connaissances et tout. Et puis après ben moi je suis quelqu'un de terrain, donc j'ai toujours été sur le terrain au contact des clubs, des athlètes. J'ai entraîné pas mal clubs de triathlon, clubs de course à pied. Et puis après, j'ai bossé en tant aussi que un peu, je sais pas comment on peut dire, consultant, intervenant, quoi, sur des stages, sur des week-ends, des trucs comme ça, quoi. Voilà. J'ai toujours eu un pied dedans. Et puis après, bah, quand j'ai commencé à travailler avec Joanne Defay, c'est là que on va dire que ma pratique s'est vraiment professionnalisée. Bah, elle a pris une autre tournure parce que là, j'ai mis un pied dans le très haut niveau. Et il a fallu que moi aussi, j'ai la sensation de faire mon boulot à très haut niveau. Donc, ça m'a mis un bon coup de pression et voilà.
Alors, je poserai une question. Comment tu découvres le surf? Parce que, alors, je reviens sur le ski et le snow. Est-ce que quand on fait du ski et du snow, on a cette sensation de glisse? Est-ce que on a des facilités, on va dire, à faire du surf? Et est-ce que tu fais toujours du surf?
Alors, ouais, je surfe quasiment tous les jours. J'étais encore ce
Ah
matin,
ouais.
mais il n'y avait pas de vague, donc j'ai pris mon vélo et je suis allé rouler à la place. Mais oui, là j'ai pris le depuis 10 ans que je voyage avec Johan, je surfe beaucoup, beaucoup plus qu'avant. J'ai découvert le surf en arrivant à La Réunion. Et puis bah justement, c'était pour compenser un peu ce manque de neige, on va dire. Essayer de retrouver des sensations de glisse. Donc, c'est pas du tout la même glisse, c'est pas le même élément et tout, mais malgré tout, il y a pas mal de points communs. Ça m'a pas empêché de galérer quand même au début parce que le surf, c'est vraiment une activité qui est ingrate, on va dire, et hyper frustrante parce que il y a plein de paramètres, il y a plein de choses à faire avant de réussir à se mettre debout sur la vague. Donc voilà, c'est pour ça que c'est hyper frustrant et tout. J'ai galéré quelques années et puis voilà. Mais cette activité m'a passionné et me passionne encore parce que j'ai rarement vu un sport aussi exigeant dans tous les domaines, qu'ils soient mentaux ou physiques justement, quoi.
Avant qu'on déroule un peu la préparation physique pour le surf, je reviens rapidement sur tout ce qui est préparation physique pour le triathlon, course à pied. J'imagine que tu suis un petit peu voilà ce qui se dit. Il y a beaucoup de personnes, même on va dire des entraîneurs, qui pensent que la musculation, et j'en parlais encore la semaine dernière avec deux copains qui ont une application de course à pied, que la musculation en tant que telle est pas forcément indispensable ou du moins utile pour les pratiquants d'activités d'endurance. Quel est ton avis sur le sujet?
Je pense qu'on a tous un avis.
Bien sûr, mais c'est le tien que je demande, t'inquiète pas.
Ah ouais. Moi, je pense aujourd'hui que la musculation est incontournable dans tous les sports. Voilà. C'est pas. Après, il y a un amalgame souvent. Les gens confondent musculation et prise de masse, ce genre de truc, quoi. Non, il faut vraiment. Pour moi, la musculation, elle est importante dans le sens où un coureur, un cycliste, un nageur, ils doivent être connectés à un moment donné. Et voilà, si le haut du corps est pas connecté avec le bas, eh ben il va pas se passer grand-chose. Donc, la musculation, elle est importante déjà pour ça. Et puis, ben, je suis désolé, mais moi. Tu mets un coureur, quand j'analyse sa foulée et ses qualités de pied, je peux te dire s'il va manquer de force, d'explosivité. Enfin, tu vois, il y a des choses comme ça aussi qui sont pour moi incontournables, quoi. Même un cycliste, je vois pas comment il peut se passer de musculation vraiment. Enfin, moi, je roule tous les jours. Je te dis, je fais des milliers de kilomètres par an. Et je vois la différence quand je fais des cycles de musculation avec mes athlètes et tout, ou quand je lâche la musculation pendant quelques semaines parce que je suis en déplacement, ben, je peux te dire que je le ressens sur mon vélo. Hein.
Quand on est en déplacement, tu fais pas de muscu?
Ben, j'en fais, mais on va dire que j'emmène du petit matériel, tu vois, en déplacement. Déjà, souvent on voyage avec une vingaine de planches. On a plus de 200 kilos de bagages à deux. Enfin, on peut pas emmener plus de matériel. Donc, on a du petit matériel de musculation. Et il y a des endroits où il y a des salles de muscu, des salles de CrossFit et tout qui nous accueillent. Donc, on peut aller soulever un peu de fonte de temps en temps, mais c'est pas forcément le cas toute l'année. Il y a des périodes où on peut pas s'entraîner beaucoup et voilà quoi. On compose avec quoi.
Alors, quand tu es à la Réunion, moi, ce qui me fait assez rêver, c'est ta petite salle extérieure. Alors, je ne sais pas si c'est chez toi, si c'est ton jardin, mais je trouve ça terrible, quoi. Vraiment, quand je vois ça dans les vidéos de Joanne, je dis putain, mais c'est le paradis, quoi. Je me dis putain, c'est incroyable. Bref, une petite dérive. Moi, j'y connais rien au surf, et donc à part les vidéos de Joanne que j'ai découvertes il y a pas longtemps, j'ai vu entre guillemets. Ce que tu lui fais faire en termes d'entraînement, que ce soit de course à pied, de vélo, je vois la côte que tu lui fais faire où elle doit battre son record des fois, tout ça. La muscu avec des exercices qu'on voit pas souvent. Alors, je commence simplement et un peu ouvert. Quelles sont les qualités que tu cherches à développer en préparation physique pour être un bon surfeur ou une bonne surfeuse? Comment tu vois les choses? Parce qu'on voit que tu lui fais faire de la force, on voit que tu fais travailler son cardio, mais j'ai pas l'impression de ce que je peux voir. Et ça fait pas longtemps que je suis, mais que c'est pas des longues distances non plus que tu fais faire. En vélo, on voit que ça va faire 1 heure. Alors en course à pied, des fois, ça fait 1 demi-heure. Quelles sont les qualités qui font, d'un point de vue qualité physique, qui font un bon surfeur, en dehors de la technique, en mer, évidemment?
Alors, tu vois, le truc, c'est que il y a vraiment beaucoup de paramètres à prendre en considération, ce que je disais tout à l'heure. Si on analyse un peu la compétition en surf, on est sur des séries qui durent 30 à 40 minutes. Voilà, ça dépend les choix du directeur de compétition, mais on est sur, voilà, 30 à 40 minutes de série. Et sur un plan d'eau qui peut être complètement lisse ou complètement démonté. Une mer qui est démontée, c'est aussi beaucoup de courants, c'est beaucoup de vagues. Donc, ça veut dire faire beaucoup de canards pour passer sous les vagues, ramer à contre-courant, tout ça, voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 30 minutes, et ben, mon surfeur, des fois, il va passer 30 minutes à ramer. Donc, par rapport à un nageur, voilà, tu peux comparer cet effort, tu vois, ça veut dire 30 à 40 minutes de natation non-stop. Ça fait quelques bornes, tu vois. Tout ça à contre-courant, tout ça en équilibre sur une planche, tu vois, que tu dois contrôler avec ton abdomen, tu vois, parce que on se rend pas compte, mais ramer sur une planche, c'est pas complètement anodin, c'est pas quelque chose de facile. On voit bien les débutants, on est obligé de leur donner des grandes planches assez plates, qui sont assez stables. Parce que si on leur donne une board d'un pro, clairement, ils même allongés dessus, ils tiennent pas. Donc voilà, il y a tout un effort de ce côté-là. Et moi, c'est ça un peu qui m'a interpellé au début, quand j'ai commencé à suivre Johan, c'est de me dire, c'est bizarre, les surfeurs font pas de cardio, font pas d'aérobie, c'est quelque chose, c'est inconnu pour eux et tout, alors que la plupart du temps, en compétition, quand il y a des vagues et qu'il faut ramer à contre-courant pendant des longues et des longues minutes, ils ont besoin d'aérobie, ils ont besoin d'une bonne filière, ils ont besoin d'endurance spécifique dans les bras, de tout ça, quoi. Donc voilà, ça a été un peu le point de départ du truc. Et du coup, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à l'aérobie. Et il y a quelque chose de non négligeable aussi avec l'aérobie, c'est que on sait aujourd'hui que les athlètes qui ont une bonne filière aérobie ont plus de facilité à contrer les effets du jet lag. Et c'est un paramètre qui est hyper important dans le surf parce qu'on peut traverser la planète, tu vois, en quelques jours. Et des fois, on a des compétitions à l'autre bout du monde. Voilà, là, par exemple, on va passer de Tahiti au Salvador, à Rio. Enfin, tu vois, on va enchaîner plusieurs créneaux, plusieurs fuseaux horaires et tout. Et que, bah, à chaque fois, le jet lag, il est hyper important parce que les compètes, elles s'enchaînent, il faut récupérer très vite. Et donc, une bonne filière aérobie, c'est aussi un atout en plus pour pouvoir contrer ces effets, quoi. Par exemple, tu vois. Ensuite, dans l'activité surf, évidemment, donc l'aérobie pour moi c'est la première chose. Et ensuite, ben, t'as toutes les qualités de force, d'explosivité. Donc t'as des qualités aussi de sprint, si tu veux. À un moment donné, pour démarrer une vague, il faut être capable de sprinter. Ça va durer entre 1 et 3 secondes. Mais il va falloir sprinter avec les bras, donc il faut des qualités aussi à Nairobi. Enfin, il y a beaucoup de choses, quoi. Et après, ben, sur le plan technique, ouais, il va falloir disposer de pas mal de force dans les jambes, mais être connecté aussi avec tes bras, parce qu'en surf, c'est les bras qui dirigent. C'est pour ça que quand on analyse les images, on voit les surfeurs souvent, le mouvement de bras, il est assez important, c'est les bras très écartés, très ouverts. Et du coup, beaucoup de rotation du haut du corps, de choses comme ça. Et voilà. Donc, il y a tout un transfert aussi entre le haut du corps, le bas du corps. Voilà. Et puis, pas mal de force dans les jambes parce qu'il faut contrer aussi la force centrifuge. Parce que quand tu descends un mur d'eau, que tu dois faire ton virage en bas pour remonter, faire un virage en haut de vague, t'encaisses pas mal de G quand même. Donc, il faut tenir sur ses jambes. Voilà. C'est plein de choses comme ça. Il y a tout, en fait. Dans le surf, il y a tout.
Alors, je dérive, j'ai tout noté. Tu parles d'aérobie, et donc avec des efforts quand c'est des séries en surf de 30 à 40 minutes. Et de ce que je vois, encore une fois, ça fait pas longtemps que je regarde sur Strava, tout ça, et je sais pas si vous mettez tout, mais les efforts que tu fais en aérobie ou que tu fais faire à Joanne, on voit, c'est souvent dans ces durées-là. Tu vois, est-ce que ça t'arrive s'il y a une hors-saison, je ne sais pas comment ça s'organise un peu en surf, mais est-ce qu'il y a une partie où tu vas faire des efforts plus longs, peut-être à plus basse intensité, où finalement il y a toujours des compétitions, et en fait tu es toujours en train d'être assez spécifique dans ton développement de l'aérobie?
On a une intersaison quand même entre, on va dire, sur la période novembre-décembre, on a une intersaison à La Réunion et là on fait beaucoup d'endurance fondamentale. On est vraiment sur des intensités faibles et des efforts plus longs. Après, est-ce qu'il y a un réel intérêt pour Johan? Je pense qu'il est quand même minime. Mais des fois, c'est juste le fait de. J'aime bien l'expression, tu vois, changer d'air, faire autre chose. À l'origine, moi, je suis préparateur mental. J'ai fait mon DU à Clermont-Ferrand et c'est vrai que j'ai fait mon DU de prépa mental parce que pour moi, la prépa mentale et la prépa physique ne vont pas l'un sans l'autre. Tu vois, c'est. On peut pas dire je fais de la prépa mentale ou je fais de la prépa physique. Moi, je fais les deux. Quand je fais de la prépa physique, je fais aussi du mental. Et quand je fais du mental, je fais aussi du physique. Enfin, c'est étroitement lié. Et donc, le fait de changer d'air en fin de saison, ça veut dire aussi, allez, on arrête de penser à la compétition, on arrête de penser à tout ça. Il faut passer à autre chose. Il faut, voilà. Et du coup, ben, c'est des fois, c'est chouette d'aller se faire des longues randos dans ma fat, des longues sorties à vélo avec les copains, des trucs comme ça. Et c'est plus pour le fun, on va dire, vraiment, que pour la préparation.
Alors, je te pousse aussi sur les efforts croisés. Tu vois, il y a aussi un peu deux écoles. Ceux qui disent que les efforts croisés servent pas à grand-chose et ceux qui pensent que justement, ça permet de rajouter du volume facilement tout en changeant d'air, comme tu dis. Toi, tu es plus partisan de cette deuxième façon de faire. Est-ce que tu mesures les effets? Tu sais, aujourd'hui, c'est la mode un peu des data. Est-ce que quand tu fais une longue sortie, par exemple, hors saison, tu vas prendre ton cardio-fréquence-mètre et dire, voilà, faut qu'on soit à telle pulsation, et après, ça se répercute, entre guillemets, sur des efforts plus intenses quand la saison arrive?
Non, on va surveiller quelques paramètres comme ça, tu vois, sur les vélos, on a la chance d'avoir maintenant aussi les capteurs de puissance, ce genre de truc, tu vois. Donc je vais jeter un œil dessus, mais c'est pas une donnée, c'est pas la donnée qui m'intéresse le plus, tu vois. L'AFC, les watts et tout, c'est bien, je pense, quand on est vraiment chez des athlètes qui font des sports d'endurance. Là, quand Joanne elle prend son vélo et tout, ouais, je jette un œil aux données, mais vraiment c'est pas forcément ce qui m'intéresse. On va être plus sur les sensations, sur elle ce qu'elle en retient d'un effort comme ça. Moi, ce que j'aime bien des fois, c'est un peu challenger mes athlètes, quoi. C'est allez, on se fixe un petit défi. Et là, dans le cas de Joanne, par exemple, ouais, on va aller faire le tour de l'île, on va essayer de le faire en 7 heures, tu vas voir comment t'es pendant 7 heures sur ton vélo, et puis ça va te sortir un peu de ta routine de 30 à 40 minutes de série en compétition, et tu vas voir autre chose, et puis je vais te mettre dans un groupe où il y a des cyclistes, des triathlètes et des trailers qui s'entraînent différemment, qui ont un autre état d'esprit, une autre vision, enfin voilà, et ça va te faire du bien de sortir de ça et de voir ce que les autres font un peu, parce que quand tu vas retourner dans ton sport, tu vas te dire, ah ouais. On bosse différemment, mais on peut bosser aussi, quoi.
On pourrait imaginer que comme c'est un sport aquatique, tu passes plus faire de la natation dans les vidéos, à part pour la préparation d'un swim and run que vous avez fait, où on voit que elle est attachée quand ça court pour que tu la tires un peu. Est-ce que tu vas faire aussi de la natation ou justement tu te concentres plus sur des efforts plus globaux avec la course à pied, des randos et parfois le vélo sur des longues distances pour développer l'aérobie?
Disons. Ouais, disons que la natation, on va en faire parce que pour l'endurance spécifique, on est obligé. Maintenant, on va pas se taper des séries en natation. Je préfère. On a la chance à La Réunion de pouvoir surfer toute l'année. Donc, généralement, notre priorité tous les jours, en se levant le matin à 5 heures, c'est d'aller checker les vagues, d'aller voir s'il y a un surf à faire et de commencer par ça. Donc, si on arrive à surfer régulièrement, on va dire qu'il n'y a pas besoin de rajouter de la natation. Par contre, si on a des longues périodes sans surf, ce qui peut arriver quand on a un cyclone, quand on a des tempêtes et tout, des trucs comme ça, on va pas trop à l'eau. Et du coup, ben là, on va peut-être rajouter un peu de natation, on va profiter du lagon pour aller justement nager un peu et tout. Mais on va dire que en surfant tous les jours, il n'y a pas forcément besoin de rajouter de la natation. On l'a fait au début, il y a 10 ans en arrière, quand on a commencé à travailler ensemble, parce que moi, quand j'ai regardé un peu ces compétitions, ces premières compétitions auxquelles je l'ai accompagné, et puis les compétitions d'avant, on a la chance d'avoir des vidéos de la WSL, puisque toutes les compétitions sont filmées et diffusées à la télé. Et ben moi, ça, pour moi, c'était flagrant que elle avait des progrès à faire à la rame, qu'elle n'était pas assez mobile sur le spot et peut-être un peu trop essoufflée quand elle revenait au line-up pour aller chercher une autre vague. Donc voilà, Au début, on a vraiment bossé la rame à fond. Je l'ai même fait ramer en piscine, accroché à un élastique, la planche accrochée à un élastique et faire des séries, des 15-15, des 30-30, voilà, des choses comme ça. Pas mal de séries aussi à ramer dans le lagon où moi, je m'accrochais derrière avec une plus grosse planche et elle devait tirer, des choses comme ça, quoi. Fait pas mal et on en fait un peu moins maintenant. Voilà. L'an dernier, elle s'est blessée, elle s'est fait une fracture des métatarses, elle a été immobilisée quelque temps. Ben, clairement, les premières séances qu'on a reprises, c'était de la rame comme ça, très spécifique.
Je dérive sur la force, l'explosivité. On a pu voir dans les vidéos que tu faisais faire du soulevé de terre assez lourd. Est-ce qu'il y a, on va dire, des mouvements que toi tu affectionnes particulièrement où tu vas chercher à développer la force? Si oui, lesquels? Et je renchéris tout de suite. Est-ce qu'il y a un niveau de force au-delà duquel tu penses que ça sert à rien d'aller pour le surf où tu dis bon. Là, je sais plus, elle fait du soulevé de terre en série 3, 105, 110, quelque chose comme ça de mémoire.
Ouais, me semble, ouais.
Est-ce que ça vaut le coup que tu l'entraînes pour monter à 3 à 150? Ou finalement, tu vois, tu te dis, bon, 3 à 110, finalement, c'est largement suffisant. C'est déjà très fort, c'est déjà une très bonne base physique. Et on va se concentrer pour développer autre chose et pas gâcher de l'énergie dessus.
Alors, là aussi, il y a plusieurs écoles.
Dis-moi ton école.
Moi, ça me fait penser un peu, il me semble que dans le podcast précédent avec Fabien, tu lui as posé un peu le même genre de questions et je vais te répondre un peu la même chose. Moi, je pense qu'il faut toujours aller chercher un peu plus sur ses points forts. Voilà. Joanne, elle a un profil de surfeuse puissante. C'est du power surfing, comme on dit. C'est du surf, on va dire, assez classique. Mais sauf que la dimension féminine là-dedans, ben ça change la donne quoi. Quand on voit ça chez un mec, on se dit ouais, il est power, c'est du beau surf et tout, mais il va lui manquer les airs, il va lui manquer. Bon, là chez une fille, clairement, quand ça devient power, ça fait la différence par rapport aux autres filles. Il y a tous les gabarits chez les filles et il y a des filles qui sont très légères, très light, qui surfent très bien. Mais visuellement, moi je trouve ça moins sympa parce qu'elles vont pousser beaucoup moins d'eau, elles vont pas fendre les vagues comme pourrait le faire une fille qui est beaucoup plus puissante. Donc Joanne, elle a ça, elle a vraiment, c'est quelqu'un qui est très très puissant. On le retrouve beaucoup dans son surf. Ça fait 10 ans qu'elle est sur le tour et elle continue de progresser. Là, cette année, si tu as suivi un peu. Elle est en train de faire sa meilleure saison. Elle est actuellement numéro 2 mondiale. Elle a gagné une épreuve. Elle a fait une finale en back-to-back. Et ben, je me dis que peut-être qu'on a raison d'insister sur son point fort qu'est la force et la puissance et de continuer à développer ces qualités-là, tu vois, et surtout sur le deadlift qui est un exercice que j'affectionne particulièrement. Donc, oui, je vais continuer à la pousser là-dedans. Par contre, je vais pas non plus en faire trop. Il y a un moment donné où la saison, l'intersaison, elle est assez courte pour se préparer, donc il faut aller à l'essentiel. Donc le deadlift, il va revenir quasiment à chaque séance, mais je vais pas lui faire un max non plus tous les 3 jours. On va pas faire non plus que de la force, de l'hyperforce et tout ça. Voilà, c'est que il faut aussi faire tout un tas de choses à côté. Donc voilà, elle continue à progresser au deadlift, mais progression est quand même très lente.
Des exercices, est-ce que tu en as d'autres sur lesquels tu cherches à faire monter la force? Parce qu'on voit surtout le soulevé de terre dans les vidéos, on a vu un peu le squat, mais pas trop. Est-ce que par exemple il y a un mouvement ou deux de haut du corps où tu cherches à la faire progresser en force aussi?
Ouais. Donc ouais, comme tu dis, le deadlift et le back squat, donc ça c'est les deux incontournables, on va dire. Et puis après, nous on fait aussi beaucoup de traction avec mon groupe d'entraînement. C'est un mouvement que j'aime bien, les pull-ups, mais en keeping, pas forcément en strict. Donc parce que en fait, ce qui m'intéresse pour le surf, c'est de pouvoir enchaîner des longues séries de traction. Parce que clairement, ça se ressent tout de suite à la rame sur les appuis et tout ça. C'est un mouvement à sec pour progresser dans l'eau qui est assez efficace. Je le recommande franchement même pour les nageurs et tout. Moi, je vois là tous les gars que j'entraîne qui sont triathlètes et tout. Ça a changé leur façon de nager aussi. Ce mouvement, en fait, ce qui est cool, c'est qu'il y a plein de façons de le faire. Et du coup, souvent, les gens pensent, quand ils pensent traction, ils pensent max de reps. Et moi, c'est pas forcément le max de reps qui va m'intéresser quand je veux développer la force, mais plus le max de poids, l'intensité qu'on va mettre et tout. Donc ouais, on arrive à faire des tractions lestées aussi. Alors, faut tenir compte aussi du poids du bonhomme, hein. C'est clair que un gars qui est à 60 kilos, un gars qui est à 80 kilos, ben, c'est pas, déjà ils partent pas avec le même poids à soulever. Mais voilà, après ils ont tous leur petit challenge et tout. Et Joanne fait partie de ces gens qui est capable de faire des tractions lestées. Je pense à, elle doit être avec un à plus 16 kilos de son poids de corps en traction lestée, ce qui est déjà pas mal pour une fille.
Surtout que tu disais, j'ai pas renchéri, mais elle a un bas du corps exceptionnel, quoi. C'est un des trucs qui m'a surpris aussi, c'est qu'elle a un physique. Je m'attendais pas à ce physique-là pour une surfeuse, quoi. Comme je connaissais rien,
Ouais.
j'ai dit, waouh, incroyable. Je me suis dit, une athlète complète, quoi. Quand j'ai vu les vidéos, j'ai dit, waouh, là, c'est assez
Ouais.
fou.
Ouais, Joanne est une athlète complète et elle a surtout un parcours un peu différent des autres filles, je pense, dans le surf. Dans la mesure où elle est arrivée sur le World Tour il y a 10 ans, elle avait bien bossé pour arriver là et tout, mais c'est pas une surfeuse qui a un talent énorme. Aujourd'hui, on voit des filles qui ont un talent énorme, des filles qui s'entraînent pas beaucoup, mais qui ont cette glisse, qui ont ce flow, et forcément, bah, on est sur une activité qui est complètement visuelle. C'est un sport qui est jugé, donc ce qu'on voit, c'est vraiment ce qui est important. Et c'est vrai que Joanne n'a pas forcément au départ ce talent. Par contre, comme je disais tout à l'heure, elle a d'autres qualités, dont sa force, sa puissance. Et c'est une bosseuse. Donc, on a vraiment travaillé sur ces points-là pour qu'elle puisse montrer ça dans son surf. Et c'est ça qui a été un peu long au début. C'est de dire, OK, on va bosser, on va développer ta force, ta puissance, tu vas pouvoir envoyer de l'eau, tu vas pouvoir surfer comme un mec et tout. Tu as un physique pour ça, on va vraiment utiliser ça et tout. Et ce qui va être dur pour toi, c'est de réussir à montrer ça aux juges en compétition. Et puis voilà, et ça a demandé quelques semaines, quelques mois pour qu'elle arrive à montrer ça et à s'imposer comme une des surfeuses les plus puissantes du monde. Et je pense qu'avec ce travail, justement, elle a aussi montré à certaines filles qu'il n'y avait pas besoin d'avoir une glisse incroyable ou un talent incroyable pour gagner des compétitions. Il y avait aussi beaucoup de travail derrière, beaucoup d'entraînement et tout ça. Et elle a changé un peu la donne chez les filles. On a vu des filles commencer à s'entraîner, à soulever de la fonte et tout, ce qui était inimaginable il y a 10 ans en arrière, quoi. Et elle a amené ça. Et c'est vrai que le niveau féminin, là, ces 10 dernières années, il a explosé parce que maintenant, toutes les filles s'entraînent. Toutes les filles veulent être capables d'être power sur les vagues, enfin, veulent tout ça aussi. Elles veulent le kit, quoi. Même celles qui ont beaucoup de talent, elles veulent aussi maintenant la puissance et tout ça, quoi.
C'est intéressant ce que tu dis parce que pour moi ce serait un peu contre-intuitif, mais je suis aussi dans un sport de glisse actuellement qui est le kayak et tu sais, j'ai tendance à me penser qu'il faut rechercher la fluidité, tu vois, la fluidité, et au surf j'aurais pensé aussi que il fallait rechercher la fluidité, et là dans ton explication tu montres en fait que toi il y a faut capitaliser comme tu disais par rapport à Fabien Richard que j'avais dans l'épisode 50, capitaliser sur ses points forts finalement et pas chercher à obtenir un truc qui va demander tellement de travail que ça se trouve, tu l'obtiendras jamais, quoi. Alors que tu as des points forts qui te permettent aussi de performer.
Ouais, mais tu vois, moi, quand je fais l'analyse d'une vague avec un surfeur et tout, je vois plusieurs choses, mais surtout le truc qui me saute aux yeux, qui va faire la différence d'un surfeur à l'autre, ça va être les temps forts et les temps morts qu'il va y avoir sur la vague. Pour moi, aujourd'hui, pour gagner des compétitions, il faut être capable de mettre des temps forts sur une vague. Et pour mettre des temps forts, eh ben, c'est souvent en haute vague que ça se passe, quand tu vas venir faire un turn, que tu vas être sur ton rail et que là, tu vas commencer, la board, elle va vraiment mordre dans l'eau et là, tu vas bouger de l'eau. Donc, ce temps fort, à un moment donné, il va arriver d'un coup. Ça va être bam, tu vois, tu vas le lâcher comme ça. Mais pour lâcher un temps fort, il faut être capable de se relâcher complètement avant, tu vois. C'est ce qui va faire la beauté du truc. Cette sensation justement de relâchement et d'un coup, boum, ça explose et ça repart, ça se relâche et tout. Et je pense que en bossant vraiment en préparation physique sur des efforts explosifs et tout, et notamment pas mal de mouvements d'haltéro et tout, on va réussir un peu à reproduire ça et on va créer des schémas, si tu veux, sur le plan moteur. Et l'athlète va réussir peut-être à un moment donné à à créer des énormes niveaux de force et se relâcher tout de suite derrière. Tu vois ce que je veux dire?
Tout
Et
à
pour
fait.
moi, on travaille aussi la fluidité comme ça.
Alors, je reviens sur la préparation physique. Comment tu organises un peu tes cycles d'entraînement? Parce que j'imagine que quand tu fais tu mets l'accent sur la force, bah tu vas pas faire d'explosivité. On voit dans les vidéos aussi pas mal des fois de l'entraînement avec des élastiques. On voit aussi, là ça me paraît quand même bien spécifique au surf, mais beaucoup de travail en instabilité qui est beaucoup décrié actuellement. Comment tu organises un peu les cycles dans la saison, sachant que comme tu l'as dit, la saison est hyper longue, tu as 9 mois de compétition, tu es souvent loin de chez toi, pas avec tout ton matériel. Donc je vois pas mal de limitations, mais comment tu fais toi?
Ouais, franchement, c'est un casse-tête, c'est super compliqué. Je bricole. En fait, je passe mon temps à bricoler. Après, bah, les autres préparateurs physiques diront oui, mais la prépa physique, c'est du bricolage à tout moment. Ouais, je suis d'accord, mais ça l'est encore plus dans le surf. On a une saison qui est très longue, beaucoup de déplacements, des waiting périodes très longues. Ça veut dire que une compétition, elle peut être bouclée en 3 jours, mais la waiting période, elle va durer 12 jours. Donc, pendant 12 jours, on ne sait pas s'il y aura surf ou pas surf.
Ah,
Tous les matins,
parce qu'il y a peut-être pas de vagues, c'est ça qu'il faut préciser pour ceux qui
parce qu'il
connaissent
n'y a
pas.
peut-être pas de vagues. Donc, mais tu ne le sais pas comment vont être les conditions. Avec les forecasts, aujourd'hui, on peut prévoir à peu près les conditions, mais il n'y a que en visuel, vraiment, que c'est qu'on sait si c'est surfable ou non. Donc, à partir du moment où la waiting période de la compétition commence, bah, tous les matins, tu es prêt. Tu fais ton réveil musculaire, tu fais ton warm-up. Tu vas voir un peu comment c'est sur le spot. Et puis là, des fois, on te dit, bon, bah non, pas de compète aujourd'hui. Donc, bah, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Bah, tu bricoles. Voilà, on va voir ce qu'on va faire aujourd'hui. Tu te sens comment? Bah, tu vois, c'est plein de choses comme ça. Donc, en compétition, c'est très compliqué. Et puis, quand on est à la Réunion, on sait qu'on a 8 ou 9 semaines. Et là, on peut plus programmer un vrai cycle et des vrais... Des vraies périodes où on va développer la force, des vraies périodes où on va développer plus la vitesse, voilà. Mais oui, on bricole toute l'année. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est dès qu'elle rentre à la maison, de remettre un rappel de force. Voilà, elle a des qualités de vitesse quand même assez innées au départ. Elle n'a pas besoin de beaucoup travailler sa vitesse. Et l'avantage, c'est que quand elle est en déplacement, sans matériel, on peut emmener juste des élastiques, des trucs comme ça. Et là, on peut vraiment bosser justement la vitesse et l'explosivité, quoi.
Et j'ai vu que tu faisais faire pas mal aussi des exercices sur surface instable. Est-ce que ça, c'est vraiment spécifique au surf pour toi? Ou c'est... Parce qu'aujourd'hui, on voit tout et n'importe quoi sur les réseaux. Et je pense plutôt
ouais.
à tort là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose que... T'inclus par rapport au surf ou que t'inclurais quand même, tu sais, dans une optique justement d'être connecté, mieux connecté?
Ouais, dans une optique d'être mieux connecté, j'aime bien travailler avec les surfaces instables. Maintenant, c'est pas, franchement, c'est pas non plus, ça revient pas à chaque entraînement, c'est pas, j'utilise peu finalement, mais j'aime bien des fois, en surf, si tu veux, on parle beaucoup de transfert d'appui. C'est hyper important pour ton athlète qui soit capable de transférer ses appuis pied avant, pied arrière, pointe de pied, talon, tout ça. Tu vois, en fait, une planche de surf, concrètement, quand tu appuies sur l'avant, elle accélère. Quand tu appuies sur l'arrière, elle freine. Et quand tu veux surfer une vague, eh ben, la vague, elle n'est pas complètement régulière. C'est pas une rampe de skate. Donc, par moment, tu es obligé d'accélérer. Par moment, tu es obligé de freiner. Donc, voilà. Donc, tu as un transfert d'appui qui est constant. Et moi, ce que j'aime bien des surfaces instables, des fois, c'est tout bête, mais de faire des squats avec un pied en instabilité et l'autre sur une surface dure, ben, l'athlète peut doser son appui. Et je vais lui demander des fois, appui, appui, appui du côté instable, appui, appui. Et c'est pas confortable. Avec une barre, ça demande beaucoup de concentration, beaucoup de connexion aussi. Et des fois, j'aime bien, mais on est plus pareil dans des schémas moteurs, tu vois, en mode, ben, qu'est-ce que je ressens sur le moment? Comment je sens mon transfert de poids de corps, qu'est-ce que ça implique au niveau de mon haut du corps, comment je sens mon déplacement mon centre de gravité, des choses comme ça, tu vois. Mais clairement, qu'on soit d'accord, on va pas développer de la force sur une surface instable. Même si on met des charges, c'est pour complexifier la tâche, mais c'est à aucun moment pour faire de la force. Voilà. Souvent, les gens, ils se trompent un peu avec ça. Ils pensent que c'est dans un but de gagner de la force, mais pas du tout.
Et est-ce qu'il y a des cycles d'hypertrophie, tu vois, où tu cherches à, alors, déjà, moi je la trouve très musclée, super balèze, mais est-ce qu'il y a des cycles d'hypertrophie ou tout ça?
Non, en fait, on n'est pas tous égaux là-dessus. Joanne fait partie de ces gens qui font trois pompes et qui prennent des pecs. Donc, au contraire. Et c'est pour ça aussi qu'à un moment donné, on utilise l'aérobie pour venir des fois contrer un peu ça, si tu veux. Alors, je sais que c'est une théorie qui est encore
À débat.
discutable. Ouais. Maintenant, je sais que le problème qu'on a avec Joanne, justement, c'est qu'elle va prendre vraiment de la masse assez facilement. Et bon, moi, en tant qu'entraîneur, ça me dérange pas parce que je sais que cette prise de masse, elle est plutôt intéressante parce qu'il y a des gains de force aussi qui vont avec et tout. Voilà. Maintenant, elle, en tant que femme, ça la dérange un peu plus. En tant que surfeuse aussi, parce que c'est vrai que toutes les planches, elles sont faites sur mesure, avec des cotes qui sont bien précises et tout, avec un litrage, et que bah, si tu prends un petit peu de poids, il va falloir changer certaines cotes, parce que ta planche, elle va plus réagir de la même façon, forcément. Donc, c'est plus ça qui va être, on va dire, un frein dans l'hypertrophie, et qu'il faut qu'on fasse gaffe, justement, à ce qu'elles prennent pas trop.
Sur l'aérobie, je le remarque à mon niveau, plus je cours, plus je fonds.
Ouais.
Donc, malgré la muscu à côté et d'autres trucs, mais je vois bien que même si certains veulent parler d'interférence et pas d'interférence, on n'est pas tous égaux quand même, comme tu l'as dit dessus. Et, en tout cas, moi, à mon
On n'est pas
niveau,
tous
ça me fait
égaux,
perdre.
voilà. Et je pense que c'est important. Nous, avec Johan, on a commencé à diffuser nos entraînements et tout, à partager ça et tout. Et on l'a fait déjà dans un premier temps parce que en surf, personne le fait. Et vraiment, mes limites, il y a 10 ans, moi, quand je suis arrivé dans le milieu, c'était tabou, quoi. Personne disait comment ils s'entraînaient, on savait rien. C'est pour ça qu'on a beaucoup bricolé au début, d'ailleurs. Et on a fait un peu notre chemin, et voilà. Et du coup, on s'est dit, ben, le jour où on pourra, on partagera un peu ce qu'on a fait et tout. C'est pour ça qu'on partage. Mais on partage pas non plus pour dire, voilà, c'est ça la méthode, et il faut faire ci, et il faut faire ça. Non. On a ouvert des portes, on a testé des choses et aujourd'hui on le partage. Mais voilà, après chaque athlète, chaque individu est complètement unique, a son propre vécu et du coup, ben, ce qui marche avec Johan ne va pas marcher avec quelqu'un d'autre à coup sûr. Moi, par exemple, je fais beaucoup de muscu parce que j'adore m'entraîner avec mes athlètes. Pour moi, c'est important de vivre aussi ce que eux y vivent. Donc j'en fais beaucoup et à côté de ça, bah, je prends pas un gramme de muscle parce que j'ai pas une physiologie qui me le permet visiblement. Donc voilà, je sais que je vais pas prendre de masse. Par contre, bah, comme toi, moi, dès que je vais aller courir, dès que je vais aller rouler, là par contre, je sais que je vais sécher complètement, quoi.
De cet environnement, parce que pareil, dans les vidéos, on voit donc ta salle extérieure.
Ouais.
Et donc, on te voit t'entraîner des fois avec les athlètes, mais on voit aussi d'autres athlètes. J'ai
Ouais.
l'impression qu'il y a quand même. D'ailleurs, tu parlais des triathlètes, des trailers qui s'entraînaient des fois avec vous. J'ai l'impression que tu
Ouais.
as quand même une sorte de cocon d'athlètes, que peut-être tu entraînes ou pas, tu vas me dire, mais que, en fait, l'entraînement est assez partagé, en fait. Tu
Ouais.
vois.
En fait, ça a été une volonté au départ. Moi, j'ai commencé à travailler avec Joanne sur de la prépa mentale au début, juste de la prépa mentale. Elle avait un préparateur physique, Joël Hausse. Je ne sais pas, tu connais peut-être le papa de David Hausse, qui a fait 4e des Jeux de Londres en triathlon.
Ça me parle de loin, mais pas trop.
Ouais, voilà. Donc Joël est préparateur physique et du coup elle bossait avec lui, machin. Moi, je suis un pote de Joël et David, donc je connaissais bien Joël et du coup, ben, je lui ai proposé mes services en tant que préparateur mental si elle en avait besoin, parce que la Réunion c'est petit et que pour nous, bah, c'était la championne locale et que elle s'était qualifiée sur le tour, ce qui était un peu incroyable parce que c'est la seule française, la seule européenne. Enfin bon, bref. Et du coup, j'ai commencé en prépa mentale et très vite, Joël a voulu se concentrer sur les Jeux de Rio. Donc, c'était 2016 avec David. Donc, il m'a refilé la prépa physique de Johan et on a commencé à travailler ensemble, du coup, sur les deux aspects. Et ce qui m'arrangeait bien parce que c'est beaucoup plus facile de lier les deux, comme je disais tout à l'heure. Et du coup, voilà. Et Joanne, vu qu'elle vient d'un sport où c'est pas des acharnés niveau entraînement, c'était vrai il y a 10 ans, ça a changé comme je disais, mais voilà, c'était pas les surfeurs, ils sont compliqués, hein. Déjà ils sont pas du tout organisés, ils sont un peu à l'arrache tout le temps, ce qui
Voilà,
compte
c'est
c'est la...
l'image qu'on a.
Ouais, mais c'est la réalité, hein. Les gars, ils veulent passer du temps à l'eau, ils veulent beaucoup surfer. C'est vrai que c'est un sport qui procure énormément de frustration, mais aussi énormément de plaisir. Donc, moi, je les comprends, de vouloir passer du temps à l'eau et tout, c'est chouette, quoi. C'est l'essence même de ce sport et tout, et c'est génial. Mais il faut pas négliger non plus les basiques à côté et tout. Donc voilà pourquoi j'ai créé ce groupe d'entraînement. C'était pour rendre la tâche un peu plus fun, on va dire. Donc au début, les premières personnes que j'ai entraînées, c'était, on va dire, plus des copains qui étaient un peu dans le même état d'esprit, qui voulaient s'entraîner, qui voulaient partager des entraînements avec Johan et tout. Et puis, le bouche à oreille fonctionne bien à La Réunion. Et il y a pas mal de gens, j'ai eu beaucoup de demandes de gens qui voulaient venir s'entraîner et tout. Et du coup, j'ai limité mon groupe à une douzaine de personnes, quoi. Et voilà, j'ai des profils complètement différents, ce qui c'est ça que je voulais aussi, des sports différents, avoir un peu de tout, mais avec toujours le même, on va dire le même état d'esprit et un point commun à tous mes athlètes, c'est la détermination, l'objectif que je poursuis. Tous mes athlètes qui viennent s'entraîner, ils poursuivent un objectif. Ils font pas ça dans le vent. Donc, quand ils viennent s'entraîner, ils ont envie de s'entraîner.
J'ai envie de te poser une question parce que par rapport à toi, ton entraînement, de ce que je comprends, tu es souvent en déplacement. Donc, toi, tu passes un peu au second plan en tant qu'entraîneur et que ta pratique personnelle a évolué, on va dire ça comme ça, mais c'est plus celle que tu avais quand tu es arrivé, je pense. Comment tu le vis est-ce que entraîneur, c'est forcément faire passer les athlètes en premier? Tu vois, là, tu les fais vraiment, j'ai l'impression, passer en premier.
Ouais, mais disons que au début, quand on a commencé à voyager et tout, j'essayais en même temps de continuer à mettre des dossards. Donc, je partais en déplacement, Joanne s'entraînait, j'étais là pour ses entraînements et tout. Dès qu'elle en profitait pour faire sa récup et tout, moi, je partais courir. Voilà, j'ai fait ça pendant 2, 3 ans, même 3, 4 ans. Et puis, j'ai compris que c'était une charge mentale qui était trop importante. Pour moi, je me mettais un peu la pression pour rien et ça me plaisait pas, je le vivais mal, j'arrivais plus à performer comme je performais avant, et puis à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, moi, ma pratique, c'est juste du loisir, je gagne rien avec ma pratique, je suis pas un sportif professionnel, alors j'adore ça, j'ai un bon niveau, c'est chouette et tout, mais j'en vis pas, alors que Joanne, elle en vit et que si je m'investis à 100% dans son projet, si je suis à fond, si même moi, je suis meilleur dans ce que je fais, elle sera forcément meilleure aussi. Et si elle est meilleure, eh ben, ça veut dire plus de médailles et plus de victoires, plus de tout ça. Du coup, ben, j'ai décidé d'arrêter de la compétition complètement. Mais j'ai jamais arrêté l'entraînement, en fait. Donc,
Et est-ce que malgré tout, tu arrives à progresser quand même à ton niveau?
ouais, ben là, moi, en fait, le truc, c'est ça, c'est que maintenant, tous les gars que j'entraîne, j'ai quand même un malin plaisir à être devant eux à vélo ou à pied ou sur un deadlift.
On te voit faire des reps lourds aussi au soulevé de terre.
Ouais, voilà. C'est un peu un challenge aussi pour moi. Bah, déjà, je veux rester en forme. Et puis, comme je disais tout à l'heure, j'ai envie de. Moi, je fais de la muscu tous les jours pour vivre un peu l'effort avec eux. J'aime bien ça aussi, des fois, de mieux ressentir un peu ce qu'ils vivent à travers ce que je leur demande de faire et tout. Donc voilà, c'est pour ça que je fais souvent avec eux. J'aime bien. Et puis, ouais, moi, de toute façon, je suis resté sur mon profil de triathlète. Je peux m'entraîner 30 heures par semaine s'il faut.
Justement, pour les surfeurs, c'est quoi une journée type? C'est deux, trois entraînements? Je dis une connerie, hein, tu me corriges. Mais genre, il y a des vagues le matin, il y a des vagues l'après-midi, donc on y va toute la journée. Et s'il n'y a pas de vagues, on va faire une muscu, peut-être une course à pied ou un vélo, ou plus?
Ben, après, En fait, on dépend vraiment des conditions. Donc, quand il y a vraiment des vagues et que c'est vraiment très bien, qu'il y a moyen de bien s'entraîner et tout, on met tout le reste entre parenthèses. Ça veut dire que le surf devient vraiment la priorité absolue et on peut surfer une, deux, trois fois dans la journée. Et puis voilà, on fait des grosses journées comme ça. Et après, quand l'océan se calme un peu, parce que l'océan, c'est quand même très cyclique et il y a plus de temps mort que de temps fort, justement. Là, on va revenir sur un entraînement classique et on est avec Joanne, on est à deux séances par jour. Généralement, une séance de muscu et après une séance plus aérobie, course à pied ou vélo, quoi.
Je reviens sur un peu les datas parce que le surf, de ce que je comprends, t'es évalué par des juges. Ils vont noter comment tu prends la vague, tout ça.
Ouais.
Alors que tu vois que dans beaucoup de sports, tu vois, si on parle de triathlon, tu peux avoir des datas, tu parlais du vélo, bah, tu sais, voilà, quelle puissance tu mets, quand tu cours, t'as ton chrono, donc tu sais à peu près. Là, c'est
Ouais.
un peu difficile quand même de savoir si tu progresses.
Ben, c'est ça, c'est hyper subjectif parce que, comme je disais tout à l'heure, l'intérêt d'être puissant à l'eau, c'est de pouvoir bouger de l'eau. Donc, c'est la gerbe d'eau qui va témoigner de la puissance de ton turn, si tu veux. Mais c'est hyper, hyper subjectif. Voilà. Donc, c'est difficile d'évaluer un surfeur. Maintenant, ce qui est important, c'est que on va regarder vraiment les scores de Johan, tu vois, et ça, c'est ce qui nous intéresse. Donc, c'est une fois de plus hyper subjectif, mais on est vraiment sur le. C'est le seul paramètre qu'on a, disons, en compétition pour évaluer. Mais voilà, ça va dépendre de l'océan aussi. Donc, le jour où les vagues, elles sont minuscules et que c'est tout pourri et tout, bah forcément, les scores, ils vont être tout pourris. Tu vois, tu vas pas faire des 10 quand il y a 2 pieds de vague et que le plan d'eau est gâté. Donc, c'est difficile d'évaluer à l'eau. Et puis, bah, en dehors de l'eau, ouais, on va utiliser, nous, capteurs de puissance, des trucs comme ça. Mais c'est pas très parlant pour un surfeur, ça.
Ouais, je voulais dire, ça va être assez frustrant parce que tu peux progresser sur tous les domaines de ta préparation physique. Et finalement, si tu prends pas la bonne vague ou qu'il n'y a pas la bonne vague pour toi, en fait, ça se concrétise pas, quoi.
Ouais, voilà. C'est pour ça que je disais, tu vois, au début que le surf, c'est un des sports les plus complets que j'ai eu la chance de pratiquer. Parce qu'il y a une dimension mentale qui est hyper importante là-dedans. Et puis, tu as l'élément que tu contrôles absolument pas. Donc, tu as beau contrôler beaucoup de choses, l'élément, tu le contrôles pas. Donc, il faut avoir aussi le sens marin, le sens du placement, savoir lire les courants, savoir anticiper ce que la vague elle va faire, parce que c'est pareil, quand tu choisis de démarrer sur une vague, ben il faut être capable de bien lire le shape de la vague pour voir comment elle va évoluer, parce que des fois une vague on dit qu'elle ferme, tu vois, si elle casse d'un coup, bon bah ben, tu fais rien du tout. Il faut qu'elle ouvre un minimum pour pouvoir l'exploiter. Donc il y a beaucoup de choses, tu vois, mais on va dire que bah, si tu as envie d'être parmi les top surfeurs, quoi, le meilleur niveau mondial, il faut que tu aies le package, quoi. Il faut que tu aies tout. Il faut que tu aies tout. Donc, si tu peux gagner 1 ou 2% grâce à la prépa physique, bah, je pense que ça vaut le coup quand même d'aller les chercher, quoi.
Mais est-ce que toi, aujourd'hui, parce qu'il y a pas mal de jeunes coachs qui nous écoutent, de jeunes préparateurs physiques, ou du moins des gens qui veulent se lancer, est-ce que tu vis bien en tant que préparateur physique, on va dire, en haut de l'échelle, tu vois, au niveau, de ton métier?
Moi, je vis bien parce que Johan vit bien de son métier aujourd'hui. Moi, il faut savoir que j'ai commencé en tant que bénévole, hein, pour Johan. C'était un peu un pari, tu vois. J'avais un métier, moi, à côté. J'étais journaliste sportif. Je coachais aussi des clubs de trail et de triathlon. J'avais ce qu'il faut pour vivre, hein. Et quand j'ai commencé avec Joanne, bon bah elle, par contre, elle avait pas de sponsor, elle avait pas une thune, elle était nouvelle sur le tour et tout. J'allais pas lui demander une rémunération, quoi. Donc bah, j'ai commencé bénévolement, disant ouais, moi je crois en toi, toi tu crois en ton projet, moi aussi j'y crois, j'adhère à fond et tout. Moi je vais tenter le coup et puis je vais te donner de mon temps. Et puis le jour où ça marche, eh ben on verra. Si tu as envie de continuer avec moi, c'est super. Si tu as envie de travailler avec quelqu'un d'autre, eh ben tant mieux, parce que ça veut dire que je suis trop limité dans mon métier. Enfin voilà. Et du coup, on est parti de très loin. Et aujourd'hui, elle gagne bien sa vie parce qu'elle est la meilleure européenne depuis 10 ans et que elle va faire ses deuxièmes Jeux Olympiques là à Tahiti et que ben on sait que depuis que le sport est olympique, ben il y a possible plus de sponsors, plus de médias, plus de tout ça. Donc oui, aujourd'hui j'en vis bien, mais je sais pas non plus comment ça va évoluer. Moi, j'adore aujourd'hui travailler avec des gens lambda, des amateurs et tout ça aussi. Mais pour autant, je me vois pas non plus avoir une salle avec 50 personnes et tout. Donc, je sais pas trop ce que l'avenir nous réserve. Moi, je suis beaucoup dans la formation. J'adore former les gens à la prépa physique, leur transmettre un peu ce que mon expérience du terrain, ce qu'on a vécu avec Johan tous les deux, ce que ça nous a apporté, tout ça. Donc, on organise quelques stages sur l'année, un ou deux. On accueille les gens, on fait un peu de prépa physique, on fait un peu de surf, on fait un peu de yoga, on passe des bons moments et tout. On aime bien ce rythme-là aussi. Donc voilà, je sais pas si j'ai encore envie de travailler dans le très haut niveau parce qu'il y a beaucoup beaucoup de contraintes. C'est passionnant, c'est sûr, c'est passionnant. Après, nous, on est dans une situation qui est plus délicate parce qu'on est sur un sport qui est complètement privé. C'est une ligue qui est américaine, la World Surf League. Donc, nous, on n'a pas besoin de tout le côté fédéral. On n'en a jamais eu besoin. Mais par contre, les Jeux Olympiques, c'est le côté fédéral. Donc, on est obligé de travailler avec la fédération pour les Jeux. Et ça, c'est un peu le grain de sable, j'ai envie de dire, dans l'engrenage parce que la Fédé n'a pas forcément l'expérience du tour comme nous on l'a, et l'expérience du très haut niveau. Ils sont plus sur le côté amateur et des fois, ben, on n'a pas les mêmes points de vue, on n'a pas la même vision du truc et tout. Et voilà. Et on est souvent en train de discuter, de faire des compromis et tout ça. Et ça va mieux. Là, on va à Tahiti pour les Jeux là en juillet et tout. Et c'est vrai que depuis Tokyo a été un fiasco. Mais depuis, on a beaucoup travaillé ensemble. On a réussi à pas mal échanger et à trouver, on va dire, des terrains d'entente et à faire en sorte que ça roule. Et aujourd'hui, ça roule bien. Mais voilà, je sais que là, après les Jeux de Paris, on va être libéré de tout ça et c'est pas plus mal aussi.
Aujourd'hui, si quelqu'un nous écoute et qui souhaite travailler avec toi, t'es complet?
Travailler avec moi pour venir faire du sport
Oui,
ou
pour faire de
pour
la prépa physique, tu vois, en dehors
ouais.
des stages et formations que tu proposes sur
Ouais,
l'île,
aujourd'hui.
comment on fait? Est-ce que t'es complet, complet? Parce que là, on voit que t'as un rythme assez fou. Est-ce qu'il y a de la place dans tes groupes d'entraînement, dans ta salle extérieure?
Alors, j'ai encore deux, trois places vraiment pour dépanner, mais j'en ai plus beaucoup. On va dire, je suis quand même complet. Et puis aujourd'hui, tu vois, je travaille avec des gens qui. Le contrat qu'on a ensemble aussi, c'est que ben, quand je suis en déplacement, je ne veux pas entendre parler d'eux, ils me laissent tranquille. Comme ça, je peux me concentrer sur Johan et voilà. Donc, c'est un peu un deal que j'ai avec eux. Et puis après, quand je fais la réunion, on se tape des bons cycles d'entraînement et tout, et on profite bien et c'est chouette, quoi. Donc, là, j'ai un groupe qui est top, j'adore, que des gens qui avec au fur et à mesure des séances deviennent des amis et on passe des bons moments. Tu vois, il y en a ce week-end qui voulaient aller rouler, ils m'ont appelé, on est parti rouler ensemble. Du coup, non, c'est fun quoi. Après, ils viennent à la maison, on se fait un petit déj, un café. C'est chouette. C'est plus comme ça que je vois les choses. C'est avant tout du plaisir. J'adore ça, tu vois. Donc voilà, les gens qui partagent les mêmes valeurs et tout sont les bienvenus évidemment dans la limite des places disponibles. Parce que mon terrain est pas extensible et je pense que quand on est 4 ou 5, c'est déjà pas mal.
Quelle est la formation que tu as suivie qui t'a le plus impacté?
Le plus impacté, je sais pas. Moi, j'aime bien les formations. J'adore apprendre des choses. Je lis beaucoup aussi à côté. Je suis tout le temps en train de chercher sur Google des articles, des trucs. Donc, je suis vraiment curieux de nature et j'ai toutes les formations sont bien. Tu apprends toujours un truc,
Si tu devais en
franchement.
faire qu'une dans toutes celles que tu as faites, vu que tu en fais une chaque année, laquelle tu ferais?
Laquelle je ferais, enfin, c'est difficile, hein.
Eh oui, je sais.
J'ai beaucoup aimé la muscu fonctionnelle et pourtant je me suis inscrit un peu par hasard. J'étais pas du tout emballé par le programme Et finalement, bah, j'ai appris plein de choses et ça m'a beaucoup plu. J'ai bien aimé, j'ai adoré la muscu fonctionnelle. Ouais. C'est finalement, je trouve que c'est la formation qui était le plus en lien, on va dire, avec mon travail quotidien avec les sportifs amateurs.
J'arrive au bout de mes questions. Simon, est-ce qu'il y a des sujets que tu voulais aborder qu'on n'a pas abordés?
Écoute, il y en a tellement, je pense qu'on pourrait faire plusieurs émissions. Non, non, comme disais, la prépa physique, c'est super vaste. Le surf aussi, il y a plein de choses à faire. Non, je pense que moi, ce que je retiens en tout cas de mon expérience, et si ça peut aider d'autres coachs et tout, c'est moi, j'ai toujours travaillé beaucoup avec l'observation. Je suis capable d'observer pendant des heures et des heures, de voir comment ça marche et tout, avant de prendre des décisions. Donc voilà, observer avant d'agir. Je pense que c'est important dans notre métier et je pense que c'est important aussi à un moment donné de bah, d'aller pratiquer soi-même. Je comprends pas aujourd'hui qu'il y ait des entraîneurs, des préparateurs physiques qui aient jamais essayé le sport pour lequel ils préparent des gens. Pour moi, c'est important. Alors j'ai la chance que là c'est du surf et que c'est fun et tout. C'est sûr que si c'était de la lutte ou un truc comme ça, je sais pas si j'irais au contact aussi facilement, mais je pense que c'est important, ouais, de se mettre un peu à la place de l'athlète, de comprendre un peu sa pratique et tout ça. De voilà, des fois on voit des petites choses et des fois on sent des petites choses et c'est important parce qu'on est sur un métier où c'est aussi beaucoup de feeling, beaucoup beaucoup de feeling. Il y a beaucoup beaucoup de théories en prépa physique. On lit de tout et il y a beaucoup de théories et leur contraire aussi. Il y a beaucoup de voilà, il y a beaucoup de points qui sont discutables et tout. Donc je pense que ce qui est important, c'est vraiment d'observer et de ressentir pour pouvoir se faire sa propre idée et tout. Je pense qu'en prépa physique, on peut pas non plus se tromper. De rien faire, c'est se tromper, ça c'est sûr. Mais voilà, après, il faut accepter qu'on peut aussi des fois se tromper. On fait des choix et ils sont pas forcément les bons. Et puis voilà, derrière, il y a juste à rectifier en fait. C'est juste ça. C'est jamais très grave. Et puis voilà. Et puis suivre des formations régulièrement. Je pense que c'est important d'être à jour. Tu vois, si on fait référence par exemple à la formation de coach Altero. Ben moi, je la trouve super cette formation parce que pour les techniques de base et tout, ben c'est hyper important. Aujourd'hui, il y a trop de coachs qui font n'importe quoi. Enfin, on voit sur Instagram des trucs, mais moi, ça me désespère, quoi. Et il faut quand même un minimum de technique parce que à un moment donné, de toute façon, moi, c'est ce que je dis à mes gars. Vous voulez progresser, il va falloir soulever lourd. Et si vous voulez soulever lourd, il faut avoir la technique. Tant que vous n'aurez pas de technique, eh ben, vous progressez pas. Donc c'est important aussi de se former et de pouvoir après transmettre des bonnes choses, quoi. Donc voilà, c'est un peu le message que je ferai passer et voilà, n'ayez pas peur d'observer.
Bah, j'ai une autre question parce que là donc tu regardes un peu Instagram mais sur Instagram tu postes presque rien.
Ouais.
S'il y en a justement qui veulent suivre un peu plus ce que tu fais, est-ce qu'il y a des endroits particuliers où on peut suivre un peu plus ce que tu fais en dehors des vidéos sur la chaîne de Joanne, donc de fait DEFAY, où elle poste
Ouais.
régulièrement des vidéos où on te voit, où on voit un peu de séance, des bouts de séance en tout cas, qui sont très sympathiques en plus, parce que j'aime bien ces vidéos. Est-ce qu'il y a un endroit où tu partages un peu plus, voilà, où pour l'instant
Alors,
t'as pas trop de temps et tu restes un peu dans l'ombre et peut-être à l'avenir
écoute, moi je suis pas très réseau, sincèrement. C'est une grosse partie de notre boulot avec Joanne parce que je l'aide aussi là-dessus sur ses réseaux parce qu'elle gagne sa vie aussi avec ça. Donc elle en fait déjà beaucoup et ça nous prend du temps et tout. Donc moi de mon côté j'en fais pas. Par contre, on a quand même un compte Instagram qui s'appelle JS Surf Training où on poste quand même assez régulièrement.
Est-ce que tu peux épeler les lettres pour qu'on comprenne bien?
Alors c'est JS comme Joanne et Simon
Ok.
tiret Surf Training
Ok, super.
tout simplement.
Et bah,
Et là
je
sur
t'ai pas tombé dessus, donc c'est cool.
Ouais, bah tire à voir, il y a des vidéos sympas, c'est pareil, c'est juste des petits bouts de séance, des fois un exercice, un truc. C'est vrai qu'on est On travaille beaucoup. Moi, mon truc, c'est beaucoup la mobilité. J'adore la mobilité. Et aujourd'hui, avec les gens que je reçois chez moi pour s'entraîner, j'ai constaté que ben il y a toujours un énorme déficit de mobilité. Alors, OK, il y a des sports où on s'en fout. Et je suis complètement d'accord avec ça. Quand j'entends des préparateurs physiques qui disent que ouais, mais la mobilité, là, le footballeur, on s'en cogne et tout. OK. Mais ce footballeur, à un moment donné, il va vieillir. Et si on veut qu'il vieillisse bien, il faut peut-être faire un peu de mobilité maintenant. Donc ouais, clairement, on fait beaucoup de mobilité parce qu'en plus c'est un gros sujet dans le surf, vraiment. Pour être capable d'encaisser des fois des grosses chutes sur les vagues et tout, je pense qu'il faut une certaine mobilité aussi pour ça, pour pas se faire mal. Voilà. Donc voilà, on propose souvent des exercices de mobilité. On a pas mal d'exercices aussi au niveau de la mobilité des épaules parce que c'est un vrai sujet en surf aussi. L'épaule, on sait que c'est une articulation qui est complexe, qui peut être fragile aussi chez certaines personnes. Et du coup, on a beaucoup de questions là-dessus. Les gens nous écrivent beaucoup sur Instagram. Donc, dès qu'on fait un truc à l'entraînement en lien avec un message qu'on a eu avant, tiens, là, on va le filmer et puis on va le mettre sur Instagram. Et puis comme ça, on expliquera un peu aux gens qui peuvent faire ça. Voilà. Mais une fois de plus, on montre des exercices qu'on fait nous. On n'invente pas des exercices pour les filmer. Voilà, c'est juste, on va capturer un moment sur la séance et tout. Donc, ce n'est pas des vidéos qui sont parfaites. Des fois, le décor derrière, ça arrive qu'il y ait du linge en train de sécher ou des trucs comme ça. Mais voilà, on aime bien des fois montrer un petit truc qu'on fait, quoi.
Eh bah super. Merci de ton temps, Simon. On aura réussi
À toi.
à faire ce podcast. C'était super intéressant pour moi. Et donc, je vais continuer à suivre tout ça et aller voir la page Instagram que j'avais pas trouvée. Donc tu
Ouais,
vois,
bah vas-y, vas-y.
elle est bien cachée parce que j'ai trouvé ton compte Instagram, toi, assez facile. Donc Fa Coach, celui de Johan
Ouais.
forcément. Mais c'est vrai que j'étais pas tombé sur JS Surf Training. Et même sur les vidéos,
Ouais, bah.
j'ai pas l'impression que ce soit mis en description. Je sais jamais.
Et
Donc.
tire à voir. Normalement, si tu tapes Simon Paillard, Joanne Defay, tu tombes sur ce compte.
Ouais, bah je vais le trouver tout de suite. Là, il y a pas de.
Et tu me diras ce que t'en penses.
Bien sûr, bah je vais m'abonner après et voir si je trouve encore un peu plus d'inspiration. En tout cas, merci à toi, Simon, pour ton temps et puis au plaisir de continuer à suivre les aventures.
Ouais, carrément, carrément. Bah, merci à toi. Continue ton podcast. C'est vrai que moi, j'aime bien quand je pars sur mes longues sorties à vélo, avoir un petit podcast dans les oreilles. C'est toujours sympa. À continuer aussi de ton côté, à nous partager tout ça, quoi.
Ouais, j'ai encore des questions, donc ça va aller normalement. Ça marche. Bon, bah, bon entraînement et peut-être à bientôt. Salut à tous.
Merci. À bientôt.
Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez, et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs athlètes et spécialistes français de l'entraînement grâce à la crédibilité que vous me donnerez. En attendant, je vous souhaite un bon entraînement et à la semaine prochaine.